Bonjour, Roger. Hey, tout d'abord, félicitations, Roger, pour cette nomination. Comment est-ce qu'on se ressent comme auteur d'avoir reçu cette distinction?
Écoute, soyons simples et honnêtes, ça fait chaud au cœur. Quand on pense que, je dirais qu'une œuvre individuelle, parce qu'on parle dans le domaine des arts, là, mm-hmm. qu'une œuvre individuelle peut finir par représenter un peu la communauté et faire partie du tissu culturel canadien et que ce soit reconnu, bien écoute, c'est un honneur, une reconnaissance qu'on reçoit avec évidemment beaucoup d'humilité et puis bien, comme toute chose, les bons souhaits, ça fait chaud au cœur.
Parlons justement de le moment où tu as reçu l'annonce que tu allais recevoir cette distinction-là, l'Ordre du Canada. Première réaction?
Oui, bien, un peu comme maintenant, waouh, c'est merveilleux. Comment ça se fait qu'on m'a choisi? Quel est le processus? Je connais un peu le processus, mais je ne sais pas comment j'ai été mis en nomination. Mais comme je dis, c'est quelque chose que je reçois avec beaucoup d'humilité quand je pense que Léo Robert, il a été nommé en même temps que moi. Et puis je pense à tout le courage, la détermination qu'il a dû avoir pendant la crise linguistique. Je demeure mm-hmm. assez humble devant ma propre nomination.
Mm-hmm. On dit aussi que votre contribution à la littérature canadienne, vous avez ouvert la voie à des générations d'artistes franco-manitobains, contribuant aussi, ainsi à l'enrichissement culturel du Canada. Comment est-ce qu'on reflète ça avec vos œuvres qui ont été partagées, le côté moderne francophone Manitoba, comment est-ce qu'on reflète ça?
Oui, bien. C'est un peu curieux. Écoute, mon œuvre et puis celle d'autres qui avec moi, comme Paul Savoy et d'autres qui ont suivi en période des années 60, ça commence avec la Révolution tranquille au Manitoba. Et puis ça, c'était une révolution qui a été faite pour la laïcité des institutions, pour séparer l'Église de l'État, la langue de la foi, pour ainsi dire. Alors, ça a été mené à ce moment-là. Et puis, mon écriture, j'ai toujours dit, n'a rien à voir avec la communauté. Et puis, quand je parle de ma littérature, je parle de la poésie, de la fiction, parce que j'ai fini par écrire beaucoup de choses au sujet des auteurs, des artistes du Manitoba français, des essais sur la littérature, le théâtre, la poésie. Mais en fiction, en littérature, je pense que l'écriture ne doit être soumise à aucun maître sauf à elle-même.
Ouais, je t'entends dire que c'est pas nécessairement ancré, les œuvres sont pas nécessairement ancrées dans le territoire francophone du Manitoba, ni avec ses personnages non plus. Ce ne sont pas nécessairement des franco-manitobains. Mais malgré tout, cette littérature-là, qui est la tienne, elle est un symbole de cette littérature franco-manitobaine. Comment t'expliques ça?
Oui, bien, écoute, c'est curieux ce que tu dis, puis à y réfléchir depuis quelques années, je dois dire que je suis moi-même étonné en voulant faire ce que j'ai fait, que le Manitoba français est quand même un peu représenté, peut-être malgré moi, dans mes livres. Le roman Plage, c'est 100 pages qui ne font que parler du lac Manitoba. Le soleil du lac qui se couche, il y a un personnage métis mm-hmm. là-dedans, la ville mm-hmm. de Winnipeg oui. est très présente. Alors, je me suis étonné moi-même à voir qu'il y avait quand même, et dans Ganishomang, ça se passe sur les rives du lac Manitoba. Alors, je me suis étonné à ce que ce soit ainsi, mais c'est par aucune action ou décision consciente, c'est l'écriture elle-même qui m'a conduit dans ces domaines-là. Et ça a été pour moi la grande leçon de la vie, c'est que tout art, je parle d'écriture, mais c'est la même chose, je pense, pour les beaux-arts, pour la musique, pour la danse, pour le théâtre. Il faut faire ce qu'on a à faire sans se soucier de représenter nécessairement aucune valeur, parce qu'autrement, on va tomber dans, je ne sais pas, de la propagande communiste, soviétique, tous ces genres de littérature. Non, mais c'est ce qui arrive, ouais. tous ces genres de littérature qui sont au service, je ne sais pas, d'une thèse ou d'une pensée politique ou religieuse, et ce n'est pas le rôle des arts.
Ouais.
Comment ça fonctionne quand Roger Léveillé veut écrire un roman ou un essai ou ça part d'une idée? Quand est-ce que tu sais que l'idée est bonne assez pour t'asseoir puis l'écrire?
Bien, l'idée est bonne au moment où je commence à coucher des choses sur papier.
Okay.
Des fois, ça peut aller assez vite, des fois, ça peut être compliqué. Ça dépend du projet qui est entrepris, qui est commencé. Je sais jamais tout à fait en partant, mais c'est comme j'ai une idée, puis en même temps, j'ai comme une vision globale.
Mm-hmm.
Et puis dans la vision globale, il n'y a rien de défini, mais c'est comme je sais qu'il y a une bulle d'à peu près telle dimension, et puis j'entre là-dedans et je la meuble petit à petit. Des fois, je la meuble avec des meubles que je m'attendais pas, qui seraient de service, mais c'est l'écriture elle-même qui dit, bien, va plutôt là que là, élimine ça, remplace
okay.
ça. Oui.
D'accord.
C'est comme pour peindre un tableau, on commence par mettre des couleurs. Je veux dire, évidemment, on peut avoir quelque chose absolument défini, puis on ne fait que suivre les lignes, mais il y a déjà des trucs pour enfants qui sont faits comme ça, là. Ça s'appelle paint by numbers.
Oui.
Tu prends la bonne couleur, tu mets dans le bon petit carré, et puis ça finit par faire une image. Alors, je pense que les créateurs n'ont plus besoin de ça. Il faut savoir suivre la bonne ligne, et puis en écrivant, ben la bonne ligne, c'est l'angle de la plume qui coule, et puis on n'a qu'à la suivre.
Est-ce que c'est le rêve pour un auteur d'avoir un impact jusqu'au niveau que ça l'a eu côté national avec ses œuvres? Et qu'est-ce qu'on en pense aussi avec peut-être les auteurs futurs, la jeunesse qui prend cette relève-là, qui commence à écrire et développer des écritures?
Bon, il y a deux ou trois choses. Je vais tout de suite parler de ceux qui viennent. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire et puis peut-être à un moment donné, ça va être reconnu. Alors, dans certains cas, pour un auteur ou un artiste, c'est d'avoir un certain succès commercial, de pouvoir vendre ses livres. Et dans un autre cas, c'est d'avoir un impact, un certain impact sur la pensée de sa communauté, la pensée dans le domaine dans lequel on travaille. Alors, il y a des valeurs différentes. Il y a des gens qui ne sont satisfaits que, je ne sais pas, mais d'un succès en librairie qui leur apporte beaucoup d'argent. On l'espère tous, mais en même temps, je suis assez conscient que je pratique une forme de littérature qui ne touchera peut-être pas tout le grand public qui veut généralement, et j'ai rien contre, mais qui veut peut-être avant tout se détendre en prenant un livre, se détendre en regardant un film à la télé ou en écoutant une toune à la radio. Alors évidemment, dans mes livres, il y a peut-être une pensée un peu plus pondérée du côté de ce que c'est que d'exister, puis quelle est la condition humaine. Je veux pas dire la condition sociale humaine, mais la condition à l'intérieur de chaque individu dans son cœur.
Ouais, d'accord. Eh bien, écoute, l'ordre du Canada, est-ce qu'on a bien célébré ça?
Mais j'avais une bouteille de champagne par hasard
dans
ma cave à vin. Écoute, Noël s'en venait, le jour de l'an s'en venait. Alors, oui. Il y avait quelques bouteilles bien placées. Alors oui, on a célébré très tranquillement avec aussi une poitrine de canard pour souper. J'avais le goût de ça et puis ça a été préparé, c'était excellent. Mais je veux dire aussi pour la communauté, écoute, les gens devraient se rendre compte qu'il y a ici une communauté artistique et culturelle très très forte.
Oui.
Quand je parle seulement dans le domaine des arts, je me retrouve moi par exemple en présence de Réal Bérard, d'Étienne Gaboury, Lise Gaboury, Roland Mahé qui a été nommé à l'Ordre du Canada, Annette Saint-Pierre, j'en oublie certains, puis ensuite il y a les bâtisseurs comme Léo Robert et Montpoirier et d'autres aussi. Alors, la communauté est très présente, donc elle a eu un impact sur le tissu à l'échelle du pays, et c'est ces gens-là qui sont reconnus, et évidemment, ça me réconforte de penser que j'ai pu faire quelque chose pour me joindre à eux.
Ben nous, quand on a reçu la nouvelle, en tout cas moi du moins, là, c'est un beau sentiment de fierté, puis très fier de cette communauté, de l'ensemble de cette communauté, puis justement des gens qui avaient reçu, de toi puis de Léo là cette année particulièrement.
C'est ça.
Voilà.
Ouais. Mais félicitations encore une fois, Roger, et puis merci beaucoup d'en parler avec nous cet après-midi. Continuez à célébrer, continuez à écrire, on va vous lire.
Oui, absolument.
Et merci beaucoup, Caroline et Yann, et je souhaite à vous et à tous vos auditeurs, évidemment, les meilleurs vœux pour 2022.
Mm-hmm.
Ça rime.
Meilleurs vœux
pour 2022. J'ai pas l'habitude de rimer d'habitude, moi, mais voilà.
Merci, Roger. Plaisir. Bye-bye.
OK, salut.
J.R. Léveillé, qui est récipiendaire ou membre maintenant de l'Ordre du Canada.